Vous écoutez France Culture.
Les révolutions invisibles.
Dominique Rousset, avec Florent Gagneur pour la Fondation Nicolas Hulot.
C'est la suite de nos 40 épisodes pour repérer les mutations en cours ou à venir. 40 thèmes à parcourir pour faire émerger le monde de demain. Ce matin, combien sous le lampadaire ? Ou les nouvelles cités-États ? Début juillet, Barcelone a accueilli la communauté des Fab Labs. Les Fab Labs, 150 laboratoires de fabrication numérique venus de 40 pays. Les champions du do-it-yourself ou du do-it avec les autres aussi. Très prisés des artistes, des designers, des curieux et des créateurs de tout poil. Ils sont bardés de technologies les plus innovantes et ils offrent de multiples opportunités de conception et de fabrication hors des circuits traditionnels. Tout un symbole pour Barcelone qui a bien l'intention d'équiper avant 10 ans chaque quartier d'un Fab Lab. Car si tout va bien, en 2030, la rebelle catalane, la ville festive, la destination favorite de la génération Erasmus, sera devenue la première ville autosuffisante. Alors l'autosuffisance, en économie, on voit bien ce que c'est. Par exemple, quand les pays européens ont développé leur politique agricole commune, c'était leur objectif, ils voulaient l'autosuffisance alimentaire. Mais le concept aujourd'hui répond à d'autres critères, plus politiques, plus citoyens et plus écologiques aussi. Il cherche à réagir contre le système dominant des échanges et de la globalisation en réduisant au maximum la dépendance aux ressources, aux biens et aux services venus de l'extérieur. Énergie, alimentation, finance, micro-industrie, tout doit être sur place, si possible. La ville autosuffisante, en fait, est dans la continuité de la ville globale brillamment décrite dans les années 90 par la géographe Saskia Sassen. New York, Londres ou Tokyo possèdent un haut niveau de commandement dans la société mondialisée. En clair, ce sont celles qui attirent à elles les élites, les services, les banques et souvent aussi les sièges des multinationales afin d'étendre leur influence sur la planète. Mais ici, on parle plutôt de la capacité des citoyens à reprendre la main. Barcelone est lancée dans l'empoderamiento ciudadano, le fameux empowerment anglais. Co-créatif, coopératif, co-constructif et collectif, bien sûr. À une condition absolue, rester connecté avec le reste du monde. Car la ville autosuffisante se doit d'être intelligente. Le mobilier urbain et les services sont des objets Internet. Des exemples d'applications ? Eh bien, par exemple, un capteur au sol dans un parking raccordé au réseau, il indique à l'automobiliste les places libres. Ou d'autres capteurs sur des conteneurs à ordures, capables de signaler au service d'enlèvement municipal quand ils sont pleins. Ou encore des lampadaires sur les grandes places, équipés pour détecter le nombre de passants autour d'eux et adapter leur intensité lumineuse en conséquence. Autant de gains de productivité assurés pour la ville et de factures réduites pour les habitants. Et Barcelone veut aller encore plus loin. Alors, petit rappel historique, vers le 8e millénaire avant notre ère, la Mésopotamie, située entre les fleuves Tigre et Euphrate, a inventé l'agriculture, puis l'élevage, puis l'habitat permanent dans les villages et progressivement les villes. Des cités-états indépendantes reliées aux campagnes proches qui les nourrissaient. Question Florent Gagneur, allons-nous vers de nouvelles cités-états autosuffisantes et hyperconnectées ?
Oui, très probablement pour une raison simple, c'est que c'est le meilleur moyen de rendre les communautés résilientes. Vous avez parlé de Barcelone, c'est un très bon exemple parce que Barcelone cherche un moyen de naturaliser la ville. Mais alors, je fais un petit aparté, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la ville de demain, elle est déjà construite. Hein. Les villes se construisent dans un tissu urbain qui existe déjà. On ne va pas raser l'existant pour reconstruire du tout neuf. Donc en fait, quand on veut imaginer la ville de demain, il suffit de regarder les villes d'aujourd'hui, puisqu'elles sont déjà construites aux trois quarts. Donc l'enjeu, c'est de refaire la ville sur la ville. À Barcelone, il y a une vraie ambition, c'est donc la cité-état moderne, hein, c'est donc de faire un réseau et de jouer la carte des nouvelles technologies. Donc leur objectif en naturalisation, c'est des vides quartiers, ralentir un peu sur le modèle des slow cities, hein, des quartiers à visage humain, et une autosuffisance, une indépendance énergétique, mais tout le reste aussi, puisque l'objectif, c'est d'importer le moins possible de produits et d'exporter en tout cas, de générer le moins de déchets possible, peu d'entrants et peu d'extériorité.
Est-ce qu'on peut dire quand même, Florent Gagneur, du coup, que c'est la revanche des villes, les villes quand même dont on a beaucoup critiqué l'urbanisation oui. galopante et peu maîtrisée.
Oui, très probablement, parce que si on regarde ne serait-ce que le nombre d'habitants, déjà nous étions 600 millions oui, au siècle des Lumières, hein, au XVIIIe siècle, aujourd'hui nous serons 9 milliards demain, hein, en 2050. Et puis l'horizon, c'est la ville. Aujourd'hui, 50% de la population habite dans les villes, mais en 2025, c'est très bientôt, on sera 80 ou 85% à vivre dans les villes. Et comme le pouvoir des États s'affaiblit, ils sont trop petits dans la mondialisation pour peser, et en même temps, ils sont trop grands pour le fameux empowerment, qui est la capacité d'agir du citoyen, alors que les villes, c'est plutôt la bonne échelle pour expérimenter, pour innover, pour tenter de nouvelles choses, et c'est très précisément ce dont nous avons besoin. Alors, après l'époque, il y a eu des époques où il y a eu les empires, des époques où il y a eu les nations, on rentre très probablement dans le siècle des villes.
D'autant, comme on l'a montré là encore pour Barcelone, mais bien d'autres villes aussi, que l'usage des nouvelles technologies va être augmenté de plus en plus.
Tout à fait. Dans ce cas-là, on parle de smart cities ou de biocities. Ce sont des villes globales, donc comme vous l'avez expliqué, qui ont des capteurs partout, qui utilisent des nouvelles technologies pour mieux s'organiser, mieux
le
se
wifi,
métaboliser.
Le Wi-Fi partout dans la ville,
voilà. Et puis aussi des questions de bon sens. Il n'y a pas que les hautes technologies. Si on met des toits végétaux sur tous les toits des immeubles, ça favorise la biodiversité, ça fait de la climatisation naturelle. Et puis, ça permet aussi de s'alimenter. On peut faire des fermes urbaines, par exemple.
Et c'est beau. Oui, les fermes urbaines, est-ce que quand même c'est suffisant pour nourrir des villes comme Barcelone ou comme d'autres grandes villes qui ont ce projet?
En tout cas, ça marche de plus en plus. À Montréal, on en fait. On met des champs et des serres sur le toit des immeubles pour rapprocher les consommateurs des producteurs, supprimer les problèmes de stockage, les problèmes de réfrigération, les problèmes de transport aussi. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup d'économies d'énergie. Donc, d'autres villes s'y mettent aussi. New York, Singapour, elle a construit des fermes plutôt verticales qui sont des structures agricoles verticales, autonomes en énergie, où on cherche d'utiliser le moins possible d'eau. Donc ça a de multiples avantages, ça fait une agriculture de proximité et une agriculture bio en ville.
Merci Florent Gagneur. Donc pour la Fondation Nicolas Hulot, on se retrouve demain matin. Demain, mes vacances en deux clics.